Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La politique de la justice transitionnelle, 1993-2022. Près de 30 ans de conflits armés, on dénombre 10 millions de morts en RDC. Quelle réponse aux atrocités commises? Voilà une occasion de doter le pays d'une feuille de route pour qu'enfin ces milliers de morts soient pris en compte à travers la justice transitionnelle. Ce sera un début de réponse, selon le professeur Luzolo Bambi. À travers ce magazine de promotion de vos droits et devoirs, nous parlons de cette thématique de justice transitionnelle, son processus, les mécanismes de sa mise en œuvre effective. Plusieurs ateliers de réflexion et forums sont souvent organisés à ce sujet, mais à quand cette justice tant revendiquée par les victimes de graves violations des droits de l'homme?
Qu'est-ce que la justice transitionnelle? Quels sont les mécanismes de sa mise en œuvre? Quelles contraintes et défis à la justice transitionnelle dans notre pays?
Voilà la problématique à laquelle s'intéresse votre magazine pédagogique.
Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoï Moulonda et présenté avec Niclette Kayeye.
Sous la supervision de Jean-Marc Matouakino Felele. Bienvenue à tous.
La politique nationale de la justice transitionnelle. Jeff, nous abordons ce magazine avec d'abord quelques définitions conceptuelles de la justice transitionnelle.
Nicolas Kedishimba, au magistrat émérite, maître André Kabamba, avocat au barreau de Lubumbashi, et le professeur Emmanuel Luzolo Bambi, président du comité scientifique chargé d'élaborer la feuille de route de mise en œuvre de la justice transitionnelle, explique la justice transitionnelle et son opportunité en RDC. Nicolas Kedishimba.
Vous savez, la justice transitionnelle, c'est toute une structure qui engloutit ou englobe les mécanismes qui permettent d'identifier les victimes des violences faites contre la femme, surtout dans les zones des opérations militaires, même dans la vie courante, toutes les violations des droits de l'homme, connaître les victimes et aider les victimes à parler, à dénoncer, à fournir les éléments pour pouvoir les indemniser et les remettre dans leurs droits et surtout les repasser dans la société. En même temps, ces mécanismes permettent de découvrir qui sont les auteurs de ces graves violations des droits de l'homme et de les mettre hors d'état de nuire en obtenant leur condamnation par une répression exemplaire et en les aidant aussi à se reclasser après avoir purgé la sanction qui leur sera infligée.
C'est le fait qu'une société s'organise au terme des atrocités, des graves violations du droit de l'homme pour chercher à obtenir une vérité, une réparation, s'amender et avoir des garanties de non-répétition. C'est comme ce qu'on a vécu en Sierra Leone ou en Afrique du Sud avec les commissions Vérité et Réconciliation.
Oui, en réalité, c'est le fait d'abord de lutter pour mettre fin à cet état de choses, aider les gens d'abord à connaître leurs droits, aider surtout les victimes qui se cachent, qui n'ont pas le courage de dénoncer les auteurs des violences qu'elles ont subies. Donc, en réalité, la justice transitionnelle dépasse même ce que vous dites là, parce qu'on doit avoir des points focaux qui vont sensibiliser la population avec l'appui de la société civile, des chefs coutumiers, des OPJ qui sont sur le terrain, qui doivent causer avec la population et découvrir qu'est-ce qui se passe réellement dans la population, sensibiliser la population à comprendre quels sont ses droits et comment obtenir réparation des violations de ses propres droits.
André Kabamba.
Pour ne pas entrer dans les polémiques doctrinales, la justice traditionnelle peut être considérée comme un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires, bien sûr, permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans des sociétés sortant des conflits armés. Quand dans notre pays, est-ce qu'il faut nécessairement que nous puissions penser à organiser la justice traditionnelle dans notre pays? Bon, la réponse serait pour moi un peu ambiguë, dans le sens que pour qu'on arrive à organiser la justice internationale dans un pays, il faut aussi tenir compte de la justice nationale, de la justice qui est bien sûr l'un des éléments fondamentaux de l'indépendance d'un pays, de la souveraineté d'un pays. Alors, est-ce que notre justice a failli? La justice congolaise a failli? Nos magistrats ont failli, les avocats ont failli. C'est ça un peu le problème. C'est un peu le problème. Nous avons des bons magistrats bien formés. Nous avons des bons avocats. La justice fonctionne bien, mais il y a bien sûr certains éléments, certains messieurs, certains individus qui sont bien sûr corrompus. Et à cause de cela, on ne peut pas balayer toute notre justice pour demander à la Nation Unie de venir installer la justice traditionnelle dans notre pays. Alors moi, je suis de ceux-là qui pensent que c'est vraiment inutile, inopportun d'organiser la justice internationale dans notre pays.
Est-ce que la justice traditionnelle relève de la compétence de la communauté internationale ou bien de la compétence nationale?
Oui, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu viennent de la justice internationale. Cas des tribunaux internationaux pour les Rwanda, vous avez vu, cela a été organisé en Tanzanie, bon, vous voyez un peu. Donc comme nous, dans notre pays, plus de 60 ans après l'indépendance, on peut aller par exemple en Ouganda, par exemple en Angola ou au Congo-Brazzaville, pour organiser une justice qui va commencer à juger les Congolais pour les abus commis au Congo. Vous voyez un peu, c'est la honte du pays. C'est la honte du pays. Moi, j'estime que c'est à notre justice de travailler, de relever les défis pour démontrer comment est-ce qu'ils sont capables afin de relever les défis.
Mais maître, là, vous parlez des tribunaux ad hoc.
Deux fois, le principe, c'est un peu confondu. Le principe de base, c'est un peu confondu. Mais au fond, il y a la différence. Parce que le principe même qui régit la justice traditionnelle, je peux vous donner trois ou quatre principes. C'est pour mettre mettre fin à la culture de l'impunité et puis stopper la violation des droits de l'homme, enquêter sur les crimes commis dans les pays, faire sanctionner les responsables de ces faits infractionnels, apporter la réparation. Voyez un peu, est-ce que notre justice ne pourra pas faire ça? Je pense que notre justice est capable de faire le travail. Notre justice jusqu'à ce jour, d'après mon point de vue, n'a pas encore failli.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Pour approfondir les notions de la justice transitionnelle, ses préalables, son opportunité, nous recevons à présent le professeur Luzolo Bambi.
Professeur, qu'est-ce qu'on entend par justice transitionnelle? On en parle toujours.
La justice transitionnelle est l'ensemble des mesures qui peuvent être prises par un État qui a été brisé par les troubles, la guerre, notamment les déchirements, et pour reprendre la vie, pour recommencer, il faut une justice dite transitionnelle. Ce n'est pas une justice des transitions, bien que l'on peut comprendre dans le terme transitionnel, c'est le passage entre un choc passé et la gestion de la souffrance actuelle pour un avenir meilleur. En un mot, la justice transitionnelle est une justice de résilience. De résilience entre un choc passé, comment gérer le présent pour construire l'avenir. Et cette forme de justice-là, elle se manifeste de plusieurs manières. Et selon qu'un État veut qu'elle prenne une ou deux mesures seulement, comme mesure de justice transitionnelle, elle le fera. Un autre État peut prendre beaucoup plus de mesures. Mieux, en théorie, on dit, la justice transitionnelle peut avoir une approche sélective ou bien elle peut avoir une approche holistique, c'est-à-dire globale. Approche sélective ou approche globale, c'est quoi finalement? Les grands principes, les piliers d'une justice transitionnelle, c'est d'abord les poursuites judiciaires. Poursuivre les auteurs des grands crimes perpétrés pendant la période considérée. Poursuite nationale, juridiction nationale, poursuite juridiction internationale. Mais il ne suffit pas de poursuivre les gens. Il faut que les victimes reçoivent réparation. La deuxième forme, le deuxième pilier, c'est la réparation. Réparation du préjudice causé aux victimes et subi donc par les victimes. Le troisième pilier, c'est, ça dépend, le pardon. Le pardon se manifeste généralement par les lois d'amnistie. L'octroi des lois d'amnistie pour une réconciliation nationale. Après, le quatrième pilier, c'est la vérité. Ça signifie que les gens qui ont été victimes ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le préjudice qu'ils ont subi leur est arrivé. C'est la vérité. Et après, il y a la réconciliation. Donc, c'est l'équation justice transitionnelle. Donc, la paix, c'est l'objectif final de la justice transitionnelle. La paix égale la justice, donc les poursuites, les réparations, le pardon et la vérité. Mais après, on parle, c'est le tout dernier pilier des réformes qui sont nécessaires comme garantie de non-répétition. Ça signifie qu'il faut s'assurer que lorsqu'on applique un programme de justice transitionnelle, que ce qui s'est passé ne se répétera plus. Donc ça, c'est le principe des cinq piliers fondamentaux d'une justice transitionnelle. Maintenant, chaque État, après avoir connu un choc terrible de l'histoire, peut choisir parmi les cinq lequel pilier prendre. Généralement, beaucoup d'États recourent au pilier pardon. C'est pourquoi il y a beaucoup de lois d'amnistie souvent. On se limite à l'amnistie, point. On a appliqué une justice transitionnelle, mais dite sélective, pas holistique. Et ça marche ou ça ne marche pas selon les sociétés. Dans le cas de la République démocratique du Congo, on a aussi recouru à certaines formes de justice transitionnelle sans le dire. Quand on voit le nombre de lois d'amnistie après les différents troubles qu'on a connus au pays, le nombre de lois d'amnistie qu'on a prises, on peut considérer que c'était des formes de justice transitionnelle, mais sélectives. Ça n'a pas marché malheureusement, parce que pour que ça marche, il faut une approche holistique, une approche globale de justice transitionnelle, et cette approche-là n'a jamais été prise en compte par la République démocratique du Congo.
Le jaloux, c'est souvent celui qui t'appelle frère ou ami, celui qui connaît ta vraie valeur et il t'envie pour ça. Il est hypocrite à vie.
Abelède, on a trap killer.
Abelède, 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 Double King. Le maître, le double demeure, pharaon suprême.
Abelède. Abelède.
Le voilà.
Abelède.
Il est en route.
Abelède.
Il ne passe pas.
Abelède.
Ni le jour.
Abelède.
Ni la nuit.
Abelède.
Dans le noir.
Abelède.
Le reste de ses jours.
Abelède. Abelède. Abelède.
On va danser. Les enfants.
Abelède.
Les parents.
Abelède.
Les mamans.
Abelède.
Le maître de double demeure, Double King, Congolese Dream.
Abelette, Abelette,
Yohana,
Abelette,
Simbaï,
Abelette,
Alati Blanc,
Abelette,
Alekate,
Abelette,
ni le jour,
Abelette,
ni la nuit,
Abelette,
Bureau Oval,
Abelette,
Armée d'amour,
Abelette.
Chez le Jula, les Fouta Djalan. Voilà, tous les jours,
Abelette.
Tout le monde,
Abelette.
Dans l'ambiance,
Abelette.
En Casamance,
Abelette.
Partout en France,
Abelette.
Consti et Gare,
Abelette.
Radio Voltage 2, Double King, le maître de double demeure. Congolese Dream, le pharaon. Yeah, yeah. Les enfants, les parents, les grands-parents, les amis.
Abelette.
Tout le monde,
Abelette.
Tout le monde,
Abelette.
Dans l'ambiance.
Appelete.
On va danser.
Appelete.
Bouton de chaud. Son cœur est noir.
Appelete.
Ses yeux sont rouges.
Appelete.
Il vit sans amour.
Appelete.
Dans les brouhahas.
Appelete.
Il est si ingrat.
Appelete.
Hypocrite.
Appelete. Appelete.
Bébé.
Appelete.
Je travaille en gare. Nini boy. Obendi beauté, hein. Mets-moi le feu. Les langues à la latin. Manicure. Massage taille. Je te l'en aille ailleurs.
Appelete.
Ta peau en soi.
Appelete.
Tes mains sur mon dos.
Appelete.
Passe et repasse.
Appelete.
Jusqu'à l'impudeur.
Appelete. Appelete. Appelete.
Bébé.
Appelete.
Serve sur mon corps.
Appelete.
Prends les records.
Appelete.
Oh bébé.
Appelete.
Tu es un trésor.
Appelete.
Ta tâche l'est.
Appelete.
Soutine.
Appelete.
Gim Sadi. Les ingrats, faut pas les calculer. Les hypocrites, cache-leur que tu le sais. Sur Insta, follow me. Kofi Olomide, officiel. Didi Stone Olomide.
Appelete, 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 appelete.
César Kouka.
Appelete, appelete. Appelete, appelete, appelete.
Steve Mouye.
Appelete, appelete.
Kaya Kaya Moucha.
Appelete.
Attends mon débat.
Appelete.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Professeur Zolo, on vient de procéder à la mise en place du comité scientifique qui est chargé d'élaborer une feuille de route pour la politique nationale de la justice transitionnelle. Pouvez-vous nous définir le rôle effectif ou bien les missions?
Il y a plusieurs missions. Il s'agit d'élaborer une stratégie nationale de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire conceptualiser les termes de référence de notre justice, c'est-à-dire élaborer une feuille de route à mettre à la disposition du gouvernement pour que la justice transitionnelle devienne une réalité concrète dans notre pays. Vous savez, si nous prenons les dates 1993, 1993 à 2022, c'est à peu près 28 ans, 29 ans, plusieurs conflits armés, 6 à 10 millions de morts, mais pas des réponses classiques d'État pour essayer de résorber ces préjudices subis par les Congolais, mais surtout mettre en place une politique qui puisse promouvoir la réconciliation nationale de tous les Congolais en apportant une réponse à ces différentes, à ces différents crimes qui ont été. Et donc, depuis longtemps, pratiquement depuis une année, on a été des réunions en réunions, des séminaires en séminaires. Il y a eu beaucoup d'ateliers, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été tentées aussi par le gouvernement sur la justice transitionnelle. Mais maintenant, on a décidé de mettre en place une politique un peu plus concrète qui va permettre d'examiner les questions de vérité, questions de poursuites judiciaires, les questions de réparation et surtout les garanties de non-répétition.
De quelle manière concrète, quand vous parlez de réparation?
Par rapport à la justice transitionnelle, le volet réparation ici porte sur la réparation des millions de victimes qui ont été traumatisées par la guerre. Et c'est dans cela qu'on peut penser au fonds d'indemnisation des victimes. Ce fonds-là qui a été conçu, élaboré par les experts du gouvernement et qui a donné lieu à un projet de loi du Conseil des ministres qui a été adopté et qui est en voie d'être adopté à l'Assemblée nationale. Je pense que ça a été parrainé par la Première Dame. Comment ce fonds pourra procéder à la réparation des victimes de ces différentes atrocités? Donc ce qui change aujourd'hui, c'est que de manière concrète, pour la première fois, nous allons avoir une politique concrète qui puisse nous permettre de connaître la vérité, d'assurer les poursuites judiciaires et les réparations de ces différentes victimes. C'est ça qui est différent d'aujourd'hui.
Chaque fois, on se retrouve dans des séminaires, dans des forums pour réfléchir et rien de concret.
Le comité scientifique qui est mis en place, je vous l'ai dit dès le départ, va élaborer un document de stratégie nationale.
Dans quelle période ici?
Au grand maximum 2 mois, les experts vont se réunir pour élaborer ce document de référence que nous allons remettre au gouvernement.
Donc au bout de 2 mois, on peut avoir la justice transitionnelle. Il y aura des tribunaux qui seront installés par-ci, par-là.
Au bout de 2 mois, on pourra avoir un document de référence sur la justice transitionnelle. Nous sommes des experts. La décision, elle est gouvernementale, elle est présidentielle. Donc, sous l'autorité du président de la République, lorsque le texte sera remis au gouvernement, le ministère des Droits humains, qui a le parrainage de la justice transitionnelle, présentera ce projet au gouvernement. Le gouvernement pourra le discuter, le valider et l'adopter en Conseil des ministres, lequel fera l'objet, en adoption au Conseil des ministres, une loi de programmation de la justice transitionnelle qui va rencontrer la majorité parlementaire pour que cela soit coulé en forme de loi. Nous aurons au moins une loi concrète de justice, de programmation de justice transitionnelle dans notre pays. Et cette loi pourra être, pourra s'appliquer à jamais. Nous aurons au moins un instrument d'État qui permettra à l'État d'apporter une première fois des réponses pratiques sur toutes ces atrocités. Et la particularité de notre justice transitionnelle aujourd'hui, Bounagana est occupée. Ce qui s'est passé hier dans les environs à Mugoya.
Est-ce que cette justice transitionnelle permettra d'endiguer le problème des criminalités financières déplorées à Bounagana?
Il y a deux choses que j'aimerais relever. Il y a d'abord la question de la justice transitionnelle par rapport à l'état de siège. Faut-il maintenir ou pas la justice transitionnelle? Faut-il plutôt maintenir l'état de siège ou pas? Nous disons, pour nous, il faut maintenir l'état de siège. On le dit depuis une année. La décision chef de l'État était bonne ici, mais il faut simplement la corriger. La corriger comment?
Mais la justice n'est pas bien administrée dans ce coin.
Justement,
c'est cause de l'état de siège.
Justement, c'est pourquoi je dis la correction de l'état de siège, c'est maintenir l'état de siège, mais y insérer, y appliquer un standard, une politique de justice transitionnelle applicable à l'état de siège. Ça signifie dans les provinces, dans les régions, dans les endroits concernés par l'état de siège, il faut que les 4 piliers soient expérimentés. Il faut y découvrir la vérité, mettre en place les structures pour connaître la vérité, pour qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi cela est arrivé. Ceci permettra, pourquoi pas, à la justice transitionnelle d'identifier les auteurs, connus ou inconnus, politiques ou pas, de quelque niveau qu'ils soient, qui sont concernés par tout ce qui se passe dans les provinces concernées par l'état de siège. Les poursuites judiciaires, il faut cartographier et lister les responsabilités pénales des auteurs ou des présumés de ces différents crimes qui se commettent dans les zones concernées par l'état de siège. Je dis bien cartographier, programmer de manière claire. Il faut organiser la réparation des victimes concernées par les crimes commis dans les zones qui sont sous état de siège. Enfin, la solution, la mise en place de ces 3 mécanismes permettra au 4e pilier de justice transitionnelle, c'est-à-dire les garanties de non-répétition, ça permettra au gouvernement de prendre des mesures sécuritaires, c'est-à-dire par rapport à la politique de défense de l'armée, mais pourquoi pas par rapport au DDR, CSS, aussi d'être adapté à l'ambiance des politiques sectorielles de justice transitionnelle, et je pense que c'est une expérience pilote qui nous permettra et qui permettra au peuple congolais de voir un peu plus clair quant à la réponse que le gouvernement et les institutions auront apportée dans ce secteur de justice transitionnelle. En un mot, donc, je dis, je plaide pour le maintien de l'état de siège, mais je souhaite que cet état de siège puisse être complété par une mise en place d'une justice politique sectorielle de justice transitionnelle qu'on n'a pas expérimentée jusque-là pour des raisons que les uns et les autres peut-être connaissent. Et je crois que ce sera la solution qui nous permettra d'aller un peu de l'avant. Le plus important pour nous, aujourd'hui, le plus important, c'est après avoir trop réfléchi, après avoir trop parlé, c'est d'atterrir aujourd'hui. C'est-à-dire, au moins depuis 30 ans, avoir une réponse d'État, une réponse officielle qui permette aux dirigeants du pays, je commence par le président de la République, aux membres du gouvernement et aux autres, c'est-à-dire les secteurs de la justice et des droits humains, d'apporter une vraie solution pratique au peuple congolais et soulager sa misère.
Jeff, selon le professeur Luzolo Bambi, son comité se limitera à produire la feuille de route des mises en œuvre de la justice transitionnelle. Cette feuille de route sera remise au gouvernement qui déterminera à quel moment justement il faut instaurer cette justice. Le président de la République est représenté dans ces processus par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques et juridiques, Madame le professeur Nicole Boatia. Et le gouvernement est représenté par son ministre des droits humains, Fabrice Mpoela. Tour à tour, on va les écouter sur le moyen disponibilisé et la périodicité de la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle.
Quels sont les moyens mis en place par le gouvernement, l'État, donc les autorités que nous avons pour que nous ayons effectivement la justice transitionnelle? Qu'on cesse d'en parler toujours, de réfléchir, mais qu'on ait effectivement cette justice transitionnelle.
Mais la réflexion dont vous parlez aboutit à quelque chose. Aujourd'hui, c'est la mise en place effective du comité scientifique pour l'élaboration d'une politique nationale de la justice transitionnelle. Je crois que cette politique va nous permettre de mieux cerner les contours de ce que c'est que la justice transitionnelle et surtout comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les moyens que ce comité va nous fournir pour pouvoir avancer et revenir à ce que j'appelle toujours cette réconciliation par rapport à ce qui s'est passé aux affres de la guerre. La guerre et toutes les autres formes de violence qu'on a dans ce pays.
Si on se réconcilie, qu'est-ce qu'on va faire des victimes ?
Mais on va les réparer, parce que la justice transitionnelle, dans la justice transitionnelle, il y a quatre piliers. Et un des piliers de cette justice transitionnelle, il y a la réparation. On a le devoir, le gouvernement a le devoir, pas l'option, le devoir, je dirais même l'obligation de réparer. Et je crois qu'avec le ministre des Droits humains, il y a déjà ce projet, sinon déjà en finalisation, du fonds de réparation des victimes. C'est acquis, donc ça, c'est même plus négociable.
Mais chaque fois que l'État est condamné à une réparation par les cours et tribunaux, on a toujours du mal à s'en sortir avec l'État. Les victimes restent toujours non réparées.
Je ne dirais pas que c'est la réparation est rapide, non. Ça prend énormément de temps, parce qu'on doit d'abord repérer effectivement les victimes, on doit savoir si effectivement les faits sont réels. Vous savez que c'est très compliqué tout ça. Dès qu'on a tous ces éléments, je vous garantis que la réparation est au rendez-vous. Mais c'est lent, c'est vrai, ça paraît lent, mais elle est effective.
À quand on aura effectivement cette justice transitionnelle? Quels sont les défis ou les obstacles qui restent à franchir?
Merci beaucoup. La justice transitionnelle, il faut d'abord comprendre que c'est un processus. Et on ne décrète pas l'implémentation de la justice transitionnelle du jour au lendemain. C'est tout un processus. Mais nous pouvons dire que depuis que la République démocratique du Congo existe, aujourd'hui, on est déjà très avancé et on peut même dire que on est de plein pied dans le processus de justice transitionnelle. Parce que si avant, nous avions connu une commission vérité et réconciliation, c'est une commission qui a été créée ex nihilo, c'est-à-dire imposée lorsque les gens se sont retrouvés à Sun City. Ils ont créé, comme on a créé la commission électorale nationale indépendante, non, la commission électorale indépendante, la CI, on l'a appelée à l'époque. On a créé la commission de lutte contre la corruption. On a créé aussi la commission vérité et réconciliation. Et nous savons ce qu'elle est devenue, cette commission. Mais aujourd'hui, nous avons compris, et cela a été vécu à travers le monde, il faut partir de la base. Parce que contrairement à la justice classique, la justice transitionnelle part de la base, met en avant l'intérêt des victimes, contrairement à la justice classique qui se focalise sur l'auteur de l'infraction. Aujourd'hui, nous avons un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale que nous allons présenter dans les jours qui viennent sur les principes fondamentaux, sur les réparations. Il faut établir des bases, sinon il y aura de l'injustice. Pourquoi on doit réparer chez les Agnélé et non chez Kamouinassa? Pourquoi on doit commencer par là? Pourquoi on ne commencerait pas chez les au Congo central avec le Bundundia Congo et non au Sud Kivu? Donc tout ça, on doit établir des principes. Mais aujourd'hui, nous avons le comité scientifique justement qui est chargé d'élaborer une feuille de route de cette justice transitionnelle. Non seulement cela. Lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui on est de plein pied dans la justice transitionnelle, savez-vous que nous avons fait voter au niveau du gouvernement, en conseil des ministres, le projet des décrets portant création d'un établissement public portant fonds de réparation des victimes des crimes victimes de violences sexuelles et autres crimes graves. Je pense que pendant cette semaine, ce sera fait. Le Premier ministre et nous-mêmes, nous allons signer ces décrets. Et ce fonds sera pour réparer les atrocités que nous avons connues. Plusieurs d'entre nous ont oublié qu'il y a eu des dames qui ont été enterrées vivantes à Mwenga, qu'il y a eu des massacres à Kakobola, qu'il y a eu des massacres chez le Bunduria Congo, au Congo central, qu'il y a les victimes de Kamwena Sapu. Il y a des victimes de Yumbi, des victimes de Zenyele et autres de la province orientale. Tout cela, même à Kinshasa ici, nous parlons de plusieurs provinces, mais on ne peut pas oublier. Si on ne peut pas oublier Likinkulula ou le père Vincent Machozi, on ne doit pas non plus oublier Thérèse Kapangala. On ne doit pas oublier nos compatriotes qui avaient été ensevelis dans des fosses communes à Maluku là-bas. Nous aurons dans le cadre de la justice transitionnelle des monuments de souvenirs. Nous aurons des mausolées où leurs noms seront repris comme nous les voyons avec les victimes
du génocide,
des différents génocides, de l'Holocauste israélien. Tout cela, nous devons les répertorier et c'est ça, au fait, pour amener le Congolais à se réconcilier avec lui-même. Nous n'allons pas oublier tous ces drames que nous avons connus. Le comité scientifique aura pour tâche de nous produire une feuille de route, une politique générale pour l'implémentation de la justice transitionnelle, justement parce que l'arbitraire peut s'inviter et cette feuille de route devra aussi guider l'Assemblée nationale dans l'élaboration du projet de loi dont je viens de vous parler, enfin de la loi à leur niveau dont nous venons de vous parler.
Baya sangi bon, deuze mais. Baya jito dos santos, deuze mais. Vikai con Deus, deuze mais. Vikai con Deus. Nyama 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 salte, nyama 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 salte. Nyama 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 salte, nyama 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 salte. On fait le show à Bahia, on fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show à Bahia, on fait le show à Salvador de Bahia. Les filles sont canons dans leur petit caleçon. Les seins nus au soleil font frémir nos arcs-en-ciel. Elles sont sexy et patapata, ça nous donne la patata. Quand la musique se met à roucouler, tout le monde se laisse aller. Quand la musique se met à roucouler, l'océan se met à danser. Nyama 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 salté, nyama 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 salté, nyama 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 salté, nyama 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 salté. On fait le show à Bahia, on fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show à Bahia, on fait le show à Salvador de Bahia.
On fait le show, on fait le show.
La politique nationale de la justice transitionnelle. On revient une fois de plus à Kedishimba, au magistrat émérite qui évoque les contraintes à cette justice.
Nicolas Kedishimba, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une justice transitionnelle dans ce pays d'abord?
Vous savez, d'abord, le point de départ, c'est la formation de toute la population. Il faut que la population connaisse ses droits à tous les niveaux. Le renforcement des capacités de ceux qui sont appelés à faire régner la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle ne veut pas seulement consister à rechercher les violations, les différentes violations commises. Non, mais il faut maintenant que les gens qui commettent ces violations puissent se sentir traqués, puissent se sentir aussi dans l'insécurité et qu'ils puissent comprendre qu'ils ne doivent plus faire ça pour que tout le monde vive dans la paix. Alors, maintenant, pour le faire, il faut qu'il y ait une structure qui se retrouve dans la population. Donc, ça va se faire par des points focaux. Ensuite, ça ne va pas s'arrêter seulement par des points focaux. Ça va aussi inclure l'implication de notre Commission nationale des droits de l'homme. Parce que quand il y a des violations des droits de l'homme, il faut qu'on sache, est-ce qu'il y a eu réellement des violations des droits de l'homme ou pas. Parce que quand on parle de justice traditionnelle, on risque de tomber sur les gens qui vont inventer n'importe quoi. Maintenant, il faut vérifier les faits, il faut en avoir la preuve. Et quand on en a la preuve, il faut maintenant aider les victimes à se sentir à l'aise pour dénoncer et à être en mesure d'obtenir réparation. Mais la réparation peut provenir soit du Fonds national pour la réparation des préjudices subis par les victimes, et ça peut aussi provenir de notre justice. C'est là où nous allons parler de la formation des chambres chargées des infractions ayant trait aux violations des droits de l'homme. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, contrairement à ce qui se fait dans notre pays, parce que nous sommes parmi les grands pays, les premiers pays à avoir incorporé dans notre arsenal juridique les normes internationales ayant trait aux droits de l'homme. Et nous les avons déjà introduites dans notre arsenal juridique. Mais maintenant, nous butons encore à une difficulté. On a négligé la compétence des juridictions civiles en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, quand il y a des infractions, des violations des droits de l'homme, on se réfère aux juridictions militaires. Mais les juridictions militaires se retrouvent limitées par le fait qu'elles n'ont pas suffisamment de magistrats. Et même les magistrats qui sont là, qui sont animés d'une très bonne volonté, ne jouissent pas totalement de l'indépendance dont jouissent les magistrats civils. Je vous donnerai un cas, un auditeur militaire ou un président d'une juridiction militaire qui est lui-même colonel et qui relève d'un général dans la circonscription. Il n'a aucun mot à dire devant le général. Mais il faut maintenant qu'on puisse assurer aussi à nos magistrats militaires l'indépendance quand ils disent les droits. Et il faut aussi permettre à nos juridictions civiles de pouvoir juger, et on doit ouvrir des chambres qui sont exclusivement chargées des infractions et entrer à la violation des droits de l'homme, les viols par exemple, les attentats à la pudeur, les tortures, les traitements, les mauvais traitements inhumains et dégradants. Toutes ces infractions relèvent des juridictions civiles. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des magistrats qui sont formés en matière de droits de l'homme et qui ont la maîtrise des normes internationales, des droits de l'homme et des standards internationaux.
S'il faut parler de la formation, on peut se limiter aux magistrats qui sont là. Est-ce qu'il faudra aussi penser à l'installation des nouveaux tribunaux, des tribunaux ad hoc, juste pour cette cause?
Non. Ce serait un double emploi et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour ce faire. au sein de nos juridictions, on doit avoir des chambres qui siègent spécialement spécialisées en matière des droits de l'homme. Donc il y a le renforcement des capacités. C'est là où nous disons que les centres de formation du personnel judiciaire, où on veut encore ramener les magistrats qui ont été formés pour qu'ils subissent, qu'ils suivent encore une formation, je crois que c'est là où le centre va jouer son rôle. Il y a des spécialistes qui passent, qui donnent la formation à certains magistrats ou à tous les magistrats à tour de rôle. Et ces magistrats vont travailler dans leur juridiction respective. Mais il faudra alors qu'on respecte la procédure qui doit être démise quand on siège dans ce genre de matière. Il ne faut pas que ce soit de longues procédures. Et il faut aussi que ces magistrats maîtrisent les droits de l'homme pour pouvoir bien trancher. Donc il n'est pas vraiment nécessaire de créer encore d'autres juridictions, mais avec nos magistrats que nous avons, peuvent être formés comme on les forme pour l'OADA. On peut les former et ils vont faire du bon travail parce que nous avons des juristes bien formés, sauf ceux qui deviennent des magistrats suite à des recommandations politiques et comme ça.
La vérité, la réparation, les garanties de non-répétition, est-ce que ces piliers de la justice transitionnelle sont souvent respectés?
Vous savez que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des imperfections. C'est ainsi que l'homme est toujours en perpétuelle lutte pour atteindre la perfection. Dans notre pays, par exemple, pour que nous puissions atteindre la perfection, mettre fin à la recrudescence des actes de graves violations des droits de l'homme, il faudra que nous ayons des prisons dignes de ce nom. Il ne faut pas que nous ayons des prisons comme celle de Makala, qui est en plein centre-ville, où il n'y reste que ceux qui veulent y rester. Mais il faut que celui qui est arrêté pour avoir commis tel ou tel fait, qu'il sente qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de la population, et qu'il sente aussi le désir de s'amender pour rentrer dans la population. Il faut aussi que ceux qui ont commis ces méfaits puissent avoir suffisamment de maîtrise, de courage et une bonne formation pour pouvoir demander sincèrement pardon à leurs victimes et être en mesure de revivre en symbiose avec les victimes. Et pour cela, nous devons avoir des centres pénitentiaires qui ne sont pas dans les milieux d'origine de ces délinquants. Par exemple, nous avons les grands centres d'Angenga qu'on doit réaménager. Nous avons la prison de Luzumu, nous avons la prison de Kafela, où tous ces gens, une fois condamnés, doivent y aller, purger leur peine et travailler aussi, apprendre un métier à partir de là. Donc, quand on a déjà des centres pénitentiaires comme ça, et quand nous avons des magistrats qui respectent les droits, qui disent réellement les droits, et quand nous avons des activistes des droits de l'homme, des animateurs, des structures chargées de la justice transitionnelle, qui aident la population à comprendre quels sont ses droits, qui aident la population à savoir revendiquer ses droits, qui aident la population à comprendre que tel acte, c'est un acte à éviter, à ne plus refaire, parce que le droit de tout un chacun s'arrête là où commencent les droits des autres, et quand il y a le respect mutuel des droits des uns et des autres, eh bien la justice transitionnelle aura réussi dans notre pays.
À certaines audiences publiques au cours desquelles l'État congolais est condamné aux dommages et intérêts, il n'y a pas souvent réparation qui vient. On se plaint toujours. Nous avons assisté à cette affaire de violences sexuelles de Songo Mboyo. Les victimes réclament toujours leur indemnisation. Oui. Comment éviter cela avec la justice transitionnelle?
À mon humble avis, il y a certaines habitudes dont nous devons nous départir pour que les choses changent dans notre pays. Et je vous dis que la justice transitionnelle ne peut pas aboutir et bien fonctionner s'il n'y a pas un fonds national chargé
de réparation.
De la réparation. Et il y a aussi un deuxième point. Il faut que le Fonds national de la réparation ne se contente pas seulement de dons et l'ex qu'il reçoit, mais qu'il puisse avoir la même mise
pour le suivi de l'exécution des décisions rendues par la justice. Parce que jusqu'à présent, nous ne nous voilons pas la face. Moi, étant un magistrat honoraire et mérite, je sais ce qui se passe dans nos juridictions. L'exécution n'est pas très respectée. Et surtout, l'administration publique traîne les pas pour exécuter. Mais si la structure chargée de la justice transitionnelle obtient l'appui des hautes instances du pays pour qu'on puisse forcer, contraindre l'administration publique à libérer le fonds. Parce que chaque année, dans le budget de l'État, le ministère de la Justice reçoit l'argent d'abord pour la gestion des prisons et ensuite pour la réparation des victimes du fait de l'État ou des proposés de l'État. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un contact lié avec la présidence de la République, le ministère de la Justice, pour obtenir la contrainte publique avec l'aide de l'officier du ministère public et faire en sorte que l'exécution des décisions rendues en matière de violation des droits de l'homme soit suivie de la réparation immédiate par les condamnés. Donc, c'est question seulement qu'on mette sur pied une structure fiable, une structure qui soit dirigée par des hommes honnêtes qui doivent suivre pour assurer la défense des intérêts des victimes. Parce que là, je vais vous dire ceci. La justice transitionnelle ne va pas se limiter seulement de vérifier, de constater qu'il y a eu violation des droits de l'homme, mais elle doit aussi avoir la possibilité de saisir les juridictions des droits communs ou les juridictions militaires afin d'obtenir la réparation des préjudices subis par les victimes. Et à la place des victimes, la justice transitionnelle doit aussi avoir le droit de se constituer partie civile en lieu et place des victimes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Alors maintenant, cette justice transitionnelle, après avoir obtenu des décisions judiciaires, doit maintenant être derrière les services d'exécution pour obtenir l'exécution. Et en ce moment-là, on doit aussi revoir le fonctionnement de nos greffes et de l'huissariat qu'on a installé au pays pour suivre l'exécution immédiate, pas l'exécution qui doit se faire en plusieurs années, mais l'exécution immédiate. Il faut que la victime se retrouve rétablie dans leurs droits pour qu'elle se dise « oui, j'ai été violée, j'ai subi telle ou telle agression, mais il y a quand même la justice dans notre pays, j'ai reçu réparation intégrale. » Et les gens vont témoigner. Et il faudra maintenant qu'il y ait une campagne de sensibilisation, non pas seulement pour le petit peuple, mais même pour les institutions de notre pays, les instances supérieures du pays, et même pour ceux qui détiennent le pouvoir. Parce que tout le monde doit comprendre ce que c'est que la loi, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Maintenant, il faut que tout le monde comprenne les contraintes de la loi et les exigences de la loi, pour que nous soyons tous esclaves de la loi.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
En dehors de tout ce que vous venez d'évoquer, vous venez de parler de la formation, la sensibilisation. Le fonds doit être mis en place pour accompagner ce mécanisme de mise en œuvre de la justice transitionnelle. Ce sont là des préalables ou des contraintes à la justice transitionnelle?
Non, ce sont des contraintes. Parce qu'en fait, tout ce que nous disons, c'est le préalable pour la mise en service de cette structure importante. Le président de la République ne cesse d'en parler. Les instances internationales ne cessent de l'exiger. Mais maintenant, tout ce que nous disons ici, c'est notre contribution pour la mise en application de cette justice. Et il faut que on puisse faire tout cela comme préalable et comme contrainte. Parce que quand on fait ce qu'on fait là, il faut qu'il y ait des contraintes. Ça ne peut pas se faire. Vous savez, nous avons des habitudes dans notre pays. Et ces habitudes-là font, nous amènent toujours en arrière. Il n'y a personne qui accepte qu'on le condamne. Même ceux qui dirigent nos administrations publiques. Je vous donne le cas, par exemple, de certains ministres. Quand il a pris un arrêté, le Conseil d'État en référé suspend l'exécution de cet arrêté. Il traîne les pas pour obtempérer. Or, c'est eux qui doivent donner l'exemple. Donc, nous parlons de contraintes. Parce que si on ne parle pas de contraintes, tous ces gens vont continuer à se comporter comme ça. Même un ministre, il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi pour se faire respecter et respecter son travail et faire respecter la République.
Qu'est-ce que cette justice transitionnelle viendra résoudre comme problème en RDC? Est-ce qu'on a besoin d'une justice transitionnelle réelle?
Moi, je crois que la justice transitionnelle va donner un coup de force à la justice. Parce que quand on parle de la justice transitionnelle, les gens ont tendance à croire que ce serait une autre justice par rapport à la justice qui existe. Non, c'est un corps dans l'autre. Tout doit être ensemble. La justice transitionnelle apportera en plus dans la vie du citoyen congolais, de l'homme congolais, parce qu'elle va assurer le respect des droits des uns et des autres. Vous savez, quand quelqu'un connaît ses droits, quand il sait à qui s'adresser pour obtenir la réparation de ses droits, et quand celui qui viole sait que dès qu'on le condamne, ça sera exécuté. Parce que nous avons un grand problème dans notre pays, c'est l'exécution des décisions, c'est l'impunité. Il est condamné, mais il ne purge pas sa peine. Il est condamné où il y a des manœuvres qu'on fait pour empêcher l'exécution de la peine. C'est ainsi que vous voyez des condamnés qui sortent de la prison sans avoir des remords de ce qu'ils ont fait. Mais il faut que chacun sente que réellement la justice existe dans notre pays pour l'installation d'un état de droit digne de ce nom.
Nous allons boucler notre émission sur la thématique justice transitionnelle. Un message en rapport avec l'installation d'une justice transitionnelle.
Non, le message que je peux dire, c'est qu'il faut que chacun de nous accepte le respect des droits des uns et des autres. Et que chacun de nous accepte de subir la rigueur de la loi suite aux méfaits qu'il a commis quand il y a déjà une décision qui le condamne. Et que l'État aussi veille à ce que l'impunité puisse cesser dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés, mais qui sont amnistiés ou qui sont graciés, ou même qui ne sont pas graciés, mais qui circulent au vu au sud de tout le monde. Mais il faut maintenant que la décision judiciaire soit respectée, et il faut aussi que ceux qui rendent des décisions judiciaires se respectent, respectent la loi, et sachent qu'ils sont esclaves de la loi pour être au service de l'État et de la nation.
Ainsi s'achève Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui, qui vous a entretenu sur la politique nationale de la justice transitionnelle. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.